Et bonjour à tous, ravi de vous retrouver pour l'émission du samedi 21 mars 2026. On se retrouve avec un Bitcoin qui, miraculeusement, à la clôture sur ce week-end, pour l'instant, a l'air de vouloir tenir les 70 000. On est à 70 700 dollars ce samedi matin. Un Ethereum autour de 2150. Et c'était pas facile puisque on a eu une semaine qui a été vachement agitée pour le coup, avec, comme vous le savez, des tensions qui sont en escalade du côté de l'Iran et de toute cette zone qui est en train, petit à petit, malheureusement, de s'embraser et d'avoir toute la problématique qu'on pourrait voir ressurgir. En tout cas, c'était déjà un sujet avant et ça le sera d'autant plus après, avec une inflation des prix, que ça soit dans un premier temps au niveau, comme on l'a vu, du pétrole et donc de l'essence, mais surtout après, ça va avoir des implications beaucoup plus larges au niveau des produits de consommation et donc du consumers au niveau des États-Unis en tant que tel. Donc aujourd'hui, on est potentiellement dans ce moment où on pourrait avoir un pivot économique entre une économie qui, malgré tout, ces derniers trimestres s'était démontrée vachement résiliente, et aujourd'hui, peut-être sur fond comme ça de tensions énormes macro et géopolitiques, une économie qui va ralentir, une inflation qui va repartir, et ce qu'on appelle à minima la stagflation, c'est-à-dire le moins bon des scénarios, avec une économie qui, pendant quelques trimestres à quelques années, ne fait pas grand-chose, voire recule et empêche justement à la fois d'avoir la confiance des ménages et la consommation, donc d'avoir une économie florissante. De même qu'on va se poser la question pour l'ensemble des marchés jusqu'à cette fin d'année 2026, de si on va pas se prendre une petite tirette, et on verra ça dans un instant par la suite au niveau de l'analyse technique, avec un S&P 500 qui est au bord du gouffre en effet, et il va falloir surveiller ça avec précaution. On a Monero qui est dans le vert, toujours à la 13e place, 347 $, et sur les dernières 24 heures, rien d'extraordinaire, mais quand on observe l'hebdomadaire, on a quand même quelques performances qui restent à plus 5, plus 6, plus 14 pour Tao BitTensor. Donc le marché crypto démontre en tout cas ces dernières semaines une certaine résilience, c'est à noter. C'est peut-être encourageant pour la suite. De même qu'on sous-estime souvent au cours d'un bear market quelles peuvent être les implications finales de ce dernier. Et si jamais on avait cette tirette qui vient des marchés traditionnels, on pourrait revoir le Bitcoin effectivement quelque part entre 40 et 50 000 dollars, comme on en a discuté un bon nombre de fois, mais on va revoir ça au niveau de l'analyse technique. On clôture toujours donc le top 60 autour de 700-800 millions avec Caspa, Flare Network et Algorand. Aujourd'hui, plus que jamais, est-ce que c'est intéressant d'aller tout simplement spéculer comme ça sur des altcoins plutôt que de se positionner sur, comme on les appelle, les leaders de catégorie, mais surtout le leader incontesté et incontestable qui s'appelle Bitcoin? Comme d'habitude, tout dépendra de votre appétence au risque et de quel risque vous êtes prêt à prendre en fonction de votre propre capital. Guerre au Moyen-Orient, comme titré BFM, on a eu donc la prise de parole il y a 48 heures de Jérôme Powell, d'ailleurs presque 72 heures désormais, avec le président de la Réserve fédérale des États-Unis pour encore quelques semaines, puisqu'il va être remplacé prochainement, donc peut-être aussi que ça va rebattre un petit peu les cartes au niveau des États-Unis, mais en tout cas, pour le moment, on a en effet un son de cloche qui est plutôt réservé, qui est plutôt au quiche du côté de la Fed et qui dit tout simplement les choses. Si ça continue à se gâter du côté de l'Iran, du détroit d'Hormuz, etc., qu'on ne peut plus acheminer d'un point de vue mondial bon nombre de ressources qui passent par ce détroit, et d'un point de vue maritime, on aura bien entendu un impact à la consommation, un impact sur les prix. On le voit déjà à la pompe, bien entendu. Donc aujourd'hui, on a une Fed qui nous prépare en effet sur un discours qui se veut pas du tout rassurant, contrairement à ce qu'auraient aimé les marchés, à une stagflation à minima, donc une inflation qui est, comme il l'appelle dans le milieu, collante, c'est-à-dire moyenne haute, voire qui repart un petit peu à la hausse, mais sans prendre des proportions complètement folles. Et encore que ce scénario de stagflation, ça reste à la fois un scénario qui est dégueulasse pour l'économie, puisqu'on n'a pas de véritable direction, mais c'est un scénario qui est le moindre mal par rapport à avoir une inflation qui repart à fond les ballons. Et derrière une Fed qui, en plus de ne pas pouvoir baisser les taux, devrait théoriquement et mécaniquement les remonter. Donc là, ça serait le scénario apocalyptique pour les marchés. Donc aujourd'hui, on va croiser les doigts dans tous les cas pour qu'on se dirige, vu que ça en a tout l'air au niveau des chiffres, du chômage, de l'inflation, etc., vers cette stagflation, qui est une inflation qui est à la fois collante, mais qui n'augmente pas trop fort, pas trop vite, qui pénalise de quelques points l'économie, avec un peu moins de croissance, avec des indices qui, comme l'avait dit en amont de cette année 2026, les Goldman Sachs et les JP Morgan & Co., que 2020-2025, la récré était finie et que de 2026 à 2030, probablement, on ne ferait plus que 3-3,5 en moyenne annualisée du côté des indices. Ça annonçait pas mal la couleur. C'était en amont, bien entendu, de tout ce qui s'est passé, notamment du côté de l'Iran. Mais aujourd'hui, force est de constater que cette année 2026, en effet, s'ouvre sur ce précepte qui n'est pas super réjouissant. Et en plus, pour cette année électorale du côté des États-Unis, on est sur les midterms qui arriveront autour de l'automne. Et c'est assez marrant d'un point de vue calendaire d'ailleurs de se dire que si on compte les jours en plus du côté du marché crypto, on pourrait être pile poil dans le futur point bas et le pic au bottom de ce cycle. Donc voilà, pour l'instant, tant que le cycle existe de 4 ans entre grands guillemets, on va continuer de l'observer bien entendu. Et si un jour il disparaît complètement et que le marché crypto vit sa propre vie vis-à-vis de lui-même et vis-à-vis des autres marchés, bien entendu qu'on sera les premiers pour le relever factuellement. Mais aujourd'hui, rien ne dit en effet que ce cycle de 4 ans ne continue pas un minimum à régir les aléas des flux qui se dirigent par moment positivement sur le marché crypto et qui, lors des bear markets, ont tendance à s'en retirer tout aussi vivement. C'était proche de 1000 milliards qui se sont retirés du marché américain, toujours il y a 72 heures, au moment de la déclaration de Jérôme Powell, en même temps que le marché crypto s'est mis à vaciller. Donc vous voyez un petit peu les amplitudes du côté du marché crypto. Je crois qu'on avait reculé de 200-300 milliards, mais on a une capitalisation par rapport au S&P 500 qui est infiniment moindre, vous vous en doutez. On avait une bonne nouvelle avec Alcoin France qui nous mettait en avant que le Nasdaq obtient le feu vert pour tokeniser les actions. En effet, la SEC qui vient d'approuver cette règle permettant au Nasdaq de lancer le trading de titres sous forme tokenisée. Donc concrètement, vous allez avoir certaines actions et ETF qui pourront exister en version tokenisée sur la blockchain. Ces tokens représenteront exactement les mêmes droits que les actions classiques avec les dividendes, les votes, etc. Ils seront échangés sur le même carnet d'ordre que les actions traditionnelles sans différence côté marché. Donc on va voir comment ça va se mettre en place. Les actifs concernés seraient les actions du Russell 1000 et les ETF majeurs type S&P 500 et Nasdaq 100. Aujourd'hui, on a déjà des dérivés qui sont en place et on a vu notamment avec l'avènement de Hyperliquid pas mal de trading de ce côté-là. Est-ce que c'est vraiment le gros sujet et l'enjeu futur qui pourrait lier définitivement d'un pacte scellé au long terme la bourse traditionnelle et la blockchain? En tout cas, pour l'instant, ça semble en prendre la bonne voie. Et on clôturera au niveau des news, en tout cas pour les infos qui ont eu un impact cette semaine, avec un petit point plutôt marrant et plutôt presque un easter egg pour ceux qui suivent tout simplement la chaîne depuis longtemps, puisque les États-Unis ont enregistré le alien.gov en domain name. Donc il y a beaucoup de spéculation en ce moment, notamment sur la sphère complotiste qui petit à petit, de temps en temps, au vu de l'actualité, ont raison sur bon nombre de sujets sur lesquels ils spéculaient par le passé. Et comme je disais souvent ces dernières années, il nous manque plus que les extraterrestres au milieu pour cocher toutes les cases du bingo. Le VIX à 27 quasiment, plus 12 sur les dernières 24 heures. Donc on est toujours sous la borne des fameux 36 qu'on a titillé la semaine dernière. On avait fait une grosse redescente, donc le marché s'était calmé. On s'est dit, oui, l'Iran, ça va durer, pas durer. Là, pour cette semaine en particulier, malheureusement, ça n'a pas pris une bonne direction. Et juste à la clôture des marchés, on a Donald Trump, le président des États-Unis, qui a fait une déclaration en disant que dans tous les cas, il ne voulait pas que ça s'enlise du côté de l'Iran et qu'ils allaient trouver une solution, etc. Blablabla. Le tout en débarquant en simultané de cette prise de parole à peu près 8000 soldats des États-Unis du côté de l'Iran. Donc clairement, on marche sur des œufs actuellement et on va avoir des opportunités, elles sont déjà là. Et en l'état, on a donc le pétrole qui continue de se chercher, que ça soit l'US Oil ou le UK Oil, qui est lui-même à 110$, tandis que le US est à 98. On a spike sur les deux autour de 120 la semaine dernière. C'est pas revenu chercher un nouveau point haut. Mais surtout, ce qu'on observe, que ça soit du côté des États-Unis, de la France, de l'Allemagne, peu importe là où l'on regarde, même du côté asiatique, puisqu'on a vu récemment que c'était pareil du côté du Japon, c'est les taux longs qui sont en train de continuer d'exploser, puisque on est sur un marché qui joue extrêmement défensif. Et ça faisait partie de nos petites cases du bingo pour 2026, on y est. On a donc le 30 ans américain qui est de retour autour de 5%, c'est-à-dire on vous paie un coupon annualisé de 5% pour placer votre argent tout simplement dans les bons au trésor américain. Donc aujourd'hui, quand on vous propose comme ça 5%, bien entendu qu'il y en a beaucoup qui ne vont pas aller chercher beaucoup plus loin sur les marchés. C'est pas pareil, même pour le 2 ans qui est autour de 4 points. Le 20 ans est à 4,98. Donc, on est encore plus proche sur le 20 ans des 5 points que sur le 30 ans. Le 10 ans est à 4,40. Le 5 ans est à 4 points. Donc, inutile de vous dire que tant qu'on est dans un environnement comme ça, qui est ultra favorable à la non-prise de risque quelque part, eh bien, c'est un environnement risque adverse et on va avoir très certainement des implications qu'on peut d'ores et déjà apercevoir sur un S&P 500 qui est au contact du 0,236 de Fibo, 6500 points et qui a touché pile poil la moyenne mobile à 50 semaines à 6458. Si jamais on perd cette zone, on aura une accélération autour du 0,382 de Fibo, c'est-à-dire les 6180 points avec la moyenne mobile 100 qui est aujourd'hui à 100 semaines autour de 6070 points. Et en cas de crack majeur, eh bien comme ça l'a fait ici en octobre 2022, la moyenne mobile 200 semaines pour le S&P est aujourd'hui à 5180, ce qui nous ferait par rapport au top de marché à ce jour environ moins 26%. Il y a assez peu de chances que ça se réalise puisqu'on a déjà fait un moins 20 bien tassé au cours de l'année précédente en avril 2025. C'était il n'y a même pas un an au moment des tarifs de Trump. Là aujourd'hui, on est sur un RSI qui est déjà autour de 40 en hebdo. Donc c'est un RSI qu'on avait touché en octobre 2023 sur une correction qui pourrait finalement être assez similaire à la correction d'aujourd'hui et on était sur un moins 10%, sachant que là pour l'instant sur la moyenne mobile 50 on est plutôt autour de moins 7, moins 8, donc vous voyez que entre moins 10 et moins 8 on est à peu près sur la correction type 2023. Est-ce qu'on va chercher une correction 2022 ou une correction avril 2025 sur le S&P ? En tout cas, on est déjà pas mal avancé sur cette correction. Vous l'avez vu même au niveau des 7 magnifiques, on a des reculs de moins 10, moins 15, moins 20 et au-delà. Donc, il y a déjà des opportunités. Mais est-ce que ça se transforme vraiment en quelque chose de beaucoup plus dur avec des conséquences qui continuent de s'enliser et un blocage au niveau du détroit d'Ormuz et de toute cette zone autour de l'Iran puisque c'est un embrasement un peu général et régionaliser désormais. Voilà, pas mal de questions qui vont rester en suspens. Et comme d'habitude, pour nous autres petits investisseurs au milieu de cet océan déchaîné, le but, c'est de profiter des opportunités qui sont déjà là, mais tout en ayant bien en tête que oui, ça peut continuer de se gâter et encore un petit moment. Du côté du WPEA comme du CW8, pour ceux qui achètent en euros et sur les indices monde, on est sur un support autour des 6 euros pour le WPEA et autour de 593 euros pour le CW8 d'Amundi. Là aussi, on a pas mal de zones clés pour le moment. C'est pas énormément plus dégradé. On a moins de volatilité qu'en ayant que du marché américain. Et il y a pas mal de personnes aussi qui continuent de se positionner sur les marchés émergents. Le CAC 40 qui a cassé son support donc au cours de cette semaine de façon impulsive. 7922, le support, on est à 7665. On va très certainement revisiter la moyenne mobile 200 qui est juste en dessous à 7420, ce qui nous ferait un delta par rapport au top sur l'indice français d'environ moins 14%, donc moins de volatilité que sur le marché américain et un marché français qui malgré tout s'est pas mal réveillé ces derniers trimestres et une Europe qui a l'air de vouloir reprendre un petit peu son destin en main. D'ailleurs, en parlant de l'Europe, ça joue un petit peu avec le support ici, donc on a perdu la moyenne mobile 50 sur l'Eurostoxx 50 qui se trouvait autour de 5540 points. On est sous la moyenne mobile à 50 semaines, la moyenne mobile 100 se trouvera autour de 5280 et la moyenne mobile 200 autour de 4700 points pour le stock 50. Côté métaux précieux, le gold déroule à la baisse également cette semaine, donc à peu près tout est vendu en l'état. Signe ou pré-signe que le marché pourrait paniquer, mais pour l'instant, le VIX n'est pas suffisamment haut pour nous déclencher un véritable signal de panique. Ceci étant dit, ça arrive un peu en temps réel au moment où ça arrive. Donc malheureusement pour nous, quand le moins 20% est acté du côté des indices la plupart du temps, eh bien, il est un peu trop tard pour se retourner si on voulait alléger des positions. C'est pour ça qu'aujourd'hui, ben, la plupart des investisseurs avisés ont un petit peu de cash et attendent ou font un DCA ou entre les deux. Mais voilà, il y a beaucoup de personnes qui se posent pas mal de questions et c'est louable en l'état. On a le gold donc qui perd sa moyenne mobile 20 semaines à 4600, il est à 4005. On aura la moyenne mobile 50 à 4000, quasiment 3940. Moyenne mobile 100 à 3282 et pour du très long terme, moyenne mobile 200 autour de 2600 $ l'once pour le gold. Donc pour l'instant, c'est une correction qui, comme sur les indices et bon nombre d'autres choses, qui rentrent comme ça dans des bullruns qui, au niveau du gold, pourraient être un bullrun séculaire, on a en effet des corrections qui se font au prorata de la montée, et que ça soit en temps ou que ça soit en termes de pourcentage ou de prix. Pareil, le RSI a déjà bien purgé, il est autour de 50, on le laisse encore un petit peu purger, on a beaucoup de volumes qui ont été exécutés au niveau de l'or, et on continuera dans tous les cas d'avoir un gold qui est recherché, du moins tant que la planète continuera de jouer comme ça un peu un scénario guerroyeur plutôt que sur l'apaisement, et malheureusement pour les populations, que ça soit locale ou mondiale. 2400 milliards pour le crypto total qui a deux reprises échoué à la reprise des 2005. Ceci étant dit, on est dans un petit range compris entre la moyenne mobile 200 en bas 2000 milliards et donc cette zone des 2005 qu'on n'arrive pas à reprendre. On est déjà pour le crypto total comme pour Bitcoin sur un moins 50 bien tassé. Les oscillateurs sont déjà très bas. On était venu chercher les points bas de 2022 sur le momentum MACD. On est venu chercher quasi le point bas de RSI de 2022. Donc il est vrai que quand on regarde comme ça, on se dit oui, le marché crypto pourrait bottom entre 2000 et 2500 milliards. Oui, Bitcoin pourrait bottom entre 60 et 70. Mais la question qui demeure, c'est si on se prend le fameux moins 20% du côté du marché américain, chose qui en l'état ne devrait pas arriver vu qu'on l'a déjà eu en avril 2025 et que la statistique, c'est à peu près tous les 4 ans, entre 3 et 4 ans pour un moins 20% et tous les 8 à 12 ans pour un moins 30%, c'est-à-dire un véritable crack. Voilà, ça ne serait pas de chance qu'on se soit pris moins 25 au moment des tarifs de Trump il y a moins d'un an et qu'à nouveau, à peine un an plus tard, on embraye sur un moins 20, moins 30 ou quelque chose dans ce style. Donc pour l'instant, on va plutôt miser, entre guillemets, même si j'aime pas ce terme, quand on investit intelligemment sur le fait qu'on n'aille pas beaucoup au-delà d'un moins 10 sur les indices et que Donald Trump, qui est quand même très orienté marché et business, sauve un petit peu les meubles s'il voit que ça part en cacahuète, plutôt que de se diriger vers quelque chose de cataclysmique. Ceci étant dit, ce qui se passe d'un point de vue macro et géopolitique, l'est cataclysmique, donc en l'état, voilà, c'est plutôt de ça dont il faut jouer. Le crypto total 2 des altes suit plus ou moins ce que fait Bitcoin. De toute façon, il n'y a pas plus à en tirer tant que le marché crypto lui-même ne rentre pas dans son entièreté en bull run. USDC, USDT au niveau de la dominance stablecoin, toujours bloqué autour de 0,11. Statu quo de ce côté-là, on n'a pas de rentrée ou de sortie plus que d'habitude. 70 800 pour Bitcoin. On continue de tricoter, donc entre 60 et basiquement 75. On a les oscillateurs qui sont très très bas, voire même plus bas que 2022 pour le Bitcoin en tant que tel. Et au niveau du RSI, oui, on était quasiment sur le point de 2022, mais on voit qu'on a eu plus de ventes encore au niveau de la force, du momentum au niveau du MACD. Donc c'est quelque chose d'intéressant de se dire qu'aujourd'hui, vu que le Bitcoin capitalise bien plus que ce qu'on l'était sur le point bas du bear market précédent autour de 15 500, eh bien on a perdu beaucoup moins en termes de pourcentage, une cinquantaine de pourcents, alors qu'à l'époque c'était 77, et on est arrivé sur des points bas équivalents, voire des moments qui sont pires que 2022, alors même que on est sur des ETF qui ont marché comme jamais, une administration américaine qui a poussé les cryptos et Bitcoin comme jamais. Donc en l'état, il est vrai, j'aimerais me laisser convaincre par ceux qui ont cette thèse, tout simplement, que oui, on pourrait très bien avoir un bear market moins traumatisant sur ce cycle en particulier, mais modulo le fait que aujourd'hui, on reste malgré tout sur la perception, en tout cas, qu'en ont les gens encore et toujours, ça prendra encore quelques années, sur un outil un petit peu spéculatif, un petit peu nébuleux, qui fait un petit peu peur aussi. Enfin voilà, il y a beaucoup de choses en fait à prendre en considération, et c'est pour ça qu'aujourd'hui aussi, quand on investit en son âme et conscience et d'un point de vue un peu patrimonial, comme on dit souvent dans les crypto-monnaies, il faut savoir jauger de la pertinence de ce qu'on y alloue, tout simplement par rapport au patrimoine général, pour ne pas que ça ait un impact complètement délétère si un jour justement le marché crypto ne part pas dans le sens tel qu'on laisse compter. La dominance, ça faisait un petit moment qu'on n'était pas passé dessus, donc c'est le rapport de Bitcoin face au reste du marché, on est autour de 59% et ça fait depuis quasiment septembre 2025 qu'on est autour des 60 à plus ou moins 1 ou 2%, donc il ne se passe absolument rien, on est stable et Bitcoin démontre lors d'un bear market qu'il vaut mieux en effet être en BTC qu'en altcoin. Et 2150, il s'est fait repousser à deux reprises juste avant sa moyenne mobile 200 qui se trouve à 2433. On s'est arrêté à chaque fois à 2390. Donc on a des vendeurs qui BTC détonne la zone des 2004 et pour l'instant on est sur le support des 2150. Pareil, on n'est pas venu aussi bas pour le coup qu'en 2022 au moment de la déroute de FTX et de Terra, etc., où on avait vu donc Ether revenir sous les $900, complètement dingue. Sur ce cycle, on est revenu à 1004. Là, le point bas récent était autour de 1750-1800. Donc quand on regarde l'image de fond, que ça soit en hebdo comme ça ou en mensuel, on peut y voir malgré tout une contraction de prix qui pour l'instant ne nous donne pas véritablement de directionnalité. Par contre, tout ce qu'on sait, c'est que si on sort à la baisse des 1004 plus tard, ça va se gâter et se gâter très fort, d'autant plus qu'en mensuel on voit très bien que pour Ethereum on est à 42-43, on est pile poil sur un support mensuel. Si plus tard on ressort d'un pattern comme ça qui pourrait s'apparenter à un triangle rectangle ascendant des $5000, autant vous dire que ça va nous faire un truc d'anthologie, un petit peu comme on l'a vu au niveau du gold. Donc il n'y aura pas d'entre-deux à nouveau, c'est soit Ethereum va délivrer, va balayer d'un revers de la main tous les layers 2, bien que ça a quand même eu une pertinence à un instant T de pouvoir délivrer quelque chose que Ethereum n'était pas capable à cette époque de délivrer. Et dans les prochaines années, 2026 à 2030, si Ethereum devient ce qu'il a voulu être, et du moins s'il continue de délivrer tout ce qu'il y a sur la fameuse roadmap et sur l'astromap qui est sortie donc la dernière fois pour essayer d'expliquer un petit peu au moldu comment ça pourrait se passer par la suite, on aura une très très belle progression de cette blockchain et de ce réseau. Et d'autant plus, ne l'oublions pas qu'aujourd'hui on a en plus les ETF qui sont disponibles et les ETF stakés. C'est un petit peu passé au travers, mais BlackRock la semaine dernière encore a lancé un ETF staké sur Ether, ce qui fait qu'ils viennent chercher et qu'ils vont pouvoir dire à leurs clients au moment de leur vendre ce produit en particulier que tous les ans on va leur verser 2-3% en sous-jacent, c'est même pas en dollars, c'est directement en sous-jacent. Donc s'ils achètent 10 Ether, l'année d'après ils auront 2-3% en plus en Ether directement. Donc si le prix de l'Ether en plus à augmenter, voilà, ça fait des intérêts qui sont surcomposés au travers du temps et qui peuvent avoir tout leur intérêt sur une plaquette professionnelle slash institutionnelle. En tout cas, c'est comme ça qu'on essaie de se projeter d'un point de vue là aussi de l'investisseur raisonné. Côté actions américaines et minières, pas plus pas moins, on a Coinbase qui bloque depuis 2-3 semaines autour de $200 plus ou moins, MicroStrategy toujours à 135, qui s'est fait repousser par la moyenne mobile 200 à 150, donc pour l'instant statu quo pour toutes ces sociétés qui sont cloquées malheureusement à un marché crypto qui lui-même est au pas. On a les actions américaines avec Netflix qui clôture léger dans le vert, mais en retrait, $92 depuis les $100 qu'il a touché récemment. On n'a pas eu la force de venir chercher la moyenne mobile 50 autour de 107-108. Il y en a une que je vais surveiller par contre, puisqu'ils ont l'air de vendre des palettes de leurs nouveaux produits. C'est Apple, bien entendu. Donc prochainement, au contact de la moyenne mobile 50 à 240, elle est à 248. Support long terme et moyenne mobile 200 alignés, ça on adore pour le coup si un jour on y revient et qu'on a un petit crack de marché côté US autour de $200 tout rond. Donc là, on peut se mettre des zones long terme pour Apple. Du côté de la super traction de la locomotive Nvidia du Nasdaq et donc de la tech américaine, mais pas que, j'ai envie de dire de la tech mondiale. Donc on est à $172-173, quasi au contact de la moyenne mobile 50 à 168, moyenne mobile 100 à 145. Moyenne mobile 200 long terme à 91. Donc si jamais un jour ça se gâte vraiment pour Nvidia, que vous achetez aujourd'hui à 92, vous pouvez avoir un recul d'une cinquantaine de pourcents. C'est déjà arrivé sur bon nombre d'actions, ça arrivera peut-être pas de sitôt sur un Nvidia, mais en gros c'est la même volatilité à laquelle finalement nous ont habitués les crypto-monnaies. Robinhood qui continue de consolider dans un petit range, ça passe pas en haut, ça passe pas en bas, entre 70 et $85, moyenne mobile 100 juste en dessous, aligné au 0,618 de Fibo à $63-64. Personnellement, si on le touche, je repérais ici. Même exercice, si on touche la moyenne mobile 200 long terme, elle est à $38. En l'état, on a un RSI très bas, on a un MACD qui est en train de fléchir. Je pense pas qu'on ait besoin de retourner autour de 40 balles pour Robinhood. Par contre, toute cette zone comprise entre 60 et 70 sur lesquelles on est aujourd'hui, voilà, c'est une zone pour moi de DCA qui semble tout à fait logique pour le coup. Côté action française, il y en a une qui se fait un peu plus dérouiller que les autres à court terme, c'est Hermès qui a perdu sur cette semaine de 1888 à 1656 euros, perte de toutes les moyennes mobiles. On a une structure qui est vraiment très topiche pour le coup, hein, ici. Si on perd cette zone des 1650 euros, je ne sais pas où l'on va terminer pour le coup pour Hermès. Donc le secteur du luxe, encore et toujours, qui continue de se prendre le bouillon pour la France. Ce qui démontre une fois de plus, si on avait besoin de s'en convaincre, qu'on est totalement dans un marché aujourd'hui qui est anti-risque. Taobi Tensor avec des bonnes nouvelles encore et toujours, mais pas mal de spéculation pour le court terme. Moyenne mobile 20 autour de 246, la 50 qui a quasi été touchée en haut 313. Ceci étant dit, c'est un des charts les moins dégueulasses qu'on puisse observer aujourd'hui au niveau des altes, donc c'est à noter pour le coup. Pareil pour Solana, belle contraction entre un support qui est défendu entre 75 et 80 dollars, moyenne mobile 200 à reprendre à 103, mais par la suite le véritable pivot est beaucoup plus haut à 135. Ceci étant dit, les oscillateurs sont plutôt en fin de contraction qu'en début, c'est à noter également pour un seul. Hyperliquid qui nous a offert donc un x2 depuis le point bas de janvier 2026, 20 dollars, on est venu chercher 44. Pour l'instant, il se fait repousser, attention à la clôture de cette bougie cette semaine. Comme d'hab, après, ça reste un des sujets et des dossiers robustes de ce cycle qui très certainement, on l'espère tous, continuera de l'être sur le cycle d'après. Donc après, aujourd'hui, quand on regarde tous les altes comme ça, que vous ayez un coup de cœur, que vous ayez un dossier fondamental ou que vous ayez des convictions ou que juste vous vouliez spéculer un petit peu sans trop mettre les mains dans le cambouis, le but est de sélectionner peut-être au niveau du marché crypto entre 3 à 5 actifs grand maximum. Et si vous n'êtes pas sûr de vous, comme d'habitude, il y a un seul phare dans la nuit au niveau du marché crypto et il s'appelle BTC. Ça ne représente toujours pas un conseil en investissement ou quoi que ce soit, c'est juste que factuellement et historiquement, c'est l'actif le moins volatile et qui a le moins de risque de ruine, c'est-à-dire d'aller à zéro par rapport à l'ensemble du reste du marché. Ça ne veut pas dire que ce n'est pas risqué. Sur la réglette de risque qui va à 7, 8, 9 des banques traditionnelles, je pense que le marché crypto est à 15 par rapport aux actions qui sont peut-être à 7 ou 8, un truc comme ça, 6, 7. Mais voilà, c'est pour vous donner un ordre d'idée. Si aujourd'hui vous venez vous frotter au marché des crypto-monnaies, c'est peut-être inutile en 2026 d'aller faire comme ça un portefeuille avec 20-30 lignes et des trucs qui, là aussi, toujours factuellement et statistiques à l'appui, d'un cycle sur l'autre, ne se relèvent pas. Donc après, bon, on ne peut pas aller contre la volonté de tout à chacun, mais j'essaie de vous donner des infos clés pour vous permettre de naviguer au mieux cet océan, justement, comme on le disait tout à l'heure, déchaîné. On clôturera avec l'Asie qui, contrairement donc au niveau des taux longs aux États-Unis qui ont augmenté de façon substantielle, des 2-3%, c'est complètement fou. Le JPY 20 ans et 30 ans recule, eux, de 0,60 et 0,40. Donc, après avoir augmenté hein, considérablement également. Les actions américaines, et notamment, on avait vu la dernière fois, en fin de dernière émission, Xiaomi, qui pour l'instant n'y arrive pas. On a tenté le dépassement des 36-37 au contact de la moyenne mobile 100 semaines. Ça s'est fait complètement repousser. Donc, peut-être, si jamais ça déraille encore pour Xiaomi, un retour à la 200 semaines, à 24-25, là aussi, c'est assez difficile à lire. Le seul argument technique restant étant cette divergence où on a le cours qui nous fait des points de plus en plus bas, tandis que le RSI est à plat, voire légèrement haussier, et que le MACD pourrait recroiser dans les prochaines semaines haussier. Donc on voit qu'on a pas mal de volatilité à venir également sur les gros titres asiatiques. Je vous souhaite une excellente journée, un excellent début de week-end. Au cours de la semaine prochaine, l'épisode 2, l'immobilier arrive, et c'est une très bonne nouvelle puisque vous avez été 53 000 à consulter ce contenu sur Les Boomers ont-ils eu la vie plus facile. On arrive avec le scénario de l'immobilier, 929 commentaires, vous nous avez tout fait péter et on espère bien entendu que ça vous plaira puisque c'est le nouveau moteur de cette chaîne, comme vous l'aurez compris, en plus de la revue d'actualité économique qui se fera sur une base hebdomadaire. Donc c'est plutôt cool de partir sur une nouvelle dynamique et j'espère bien entendu que ces émissions continuent de vous offrir un petit peu de profondeur sur la façon dont vous gérez vos propres investissements, mais surtout c'est un retour en continu d'expérience de notre côté de ce qui fonctionne, de ce qui ne fonctionne pas et d'essayer toujours à la fois de garder la tête hors de l'eau quand les marchés sont à ce point tumultueux, on a l'impression d'être accroché à sa petite planche, son petit radeau et de pas trop savoir dans quel sens aller et se rappeler à ce moment-là précis eh bien, les fondamentaux de pourquoi nous sommes là, comment on le fait, à quel moment, à quel prix, l'horizon de temps et normalement une fois qu'on a répondu à toutes ces questions, ça se passe plutôt pas mal. Je vous souhaite un excellent week-end et je vous dis à la semaine prochaine. Ciao, ciao.